Alors, pour ce troisième temps d'enseignement de notre récollection, nous allons poursuivre l'étude profonde, voilà, en profondeur du credo, et particulièrement donc maintenant qui le Seigneur Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Vous pourrez voir encore aussi dans le symbole des apôtres la différence qu'il y a avec le credo de Nicée-Constantinople et surtout, comme à l'habitude, le développement beaucoup plus long, beaucoup plus grand qui en est fait dans le credo de Nicée-Constantinople. Et on va y revenir de toute manière au long de cet échange. Alors, pour commencer, Jésus est conçu du Saint-Esprit. Alors, ceci nous est rappelé évidemment par l'évangile de Luc qui nous rapporte l'Annonciation de notre Seigneur à la Vierge Marie dans l'évangile qu'il nous a donné au chapitre 1 et verset 34, je le cite, et là ici il nous rapporte les propos de la Vierge Marie elle-même. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, dit Marie. L'ange répond. L'Esprit viendra sur toi. Fin de citation. Donc, voilà, ici, de manière extrêmement simple et très claire, voilà la question de la Vierge Marie qui cherche à comprendre, et puis, et la réponse de l'ange nous donne une information des plus limpides. Alors après, accueillir cette information, adhérer à ce mystère, c'est évidemment autre chose, et donc il est heureux de pouvoir le creuser ensemble. Alors, pour ceci, cherchons à mieux comprendre aussi la mission de l'Esprit Saint, qui est toujours ordonnée, la mission de l'Esprit Saint est toujours ordonnée à celle du Fils. Hein? C'est lié à cette unité, cette communion de vie et d'amour qu'il y a entre les personnes divines. Et donc, évidemment, la mission de l'Esprit Saint est toujours ordonnée à celle du Fils qui est ordonnée à celle du Père. Hein? Voilà. Il est envoyé, l'Esprit, pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement. Hein? L'Esprit Saint, rappelons-le nous, eh bien, la troisième personne de la Trinité.
Mais il
Et
donne la
donc,
vie.
il donne la
Hein?
vie,
C'est ce
voilà.
que nous verrons
Lui qui est
ultérieurement.
le Seigneur qui donne la vie,
Voilà.
voilà.
Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc c'est lui, comme par lui, que la Vierge a été fécondée.
Et donc de ce mystère de l'incarnation et de ce lien étroit de la conception de Jésus par l'Esprit Saint, nous tenons aussi que le Fils est Christ. Voyez, on en a parlé tout à l'heure dans le précédent enseignement, mais c'est l'occasion de creuser ce même mystère et de découvrir que le Fils ne peut pas être Christ sans l'Esprit Saint. On a rapporté déjà tout à l'heure le baptême de Jésus, et au baptême de Jésus, l'Esprit vient sous la forme d'une colombe, peu importe, mais c'est l'Esprit qui vient sur Jésus pour qu'il reçoive le baptême et qui donne à entendre la parole du Père. Voilà. Et donc du coup, Jésus n'est pas reçoit pas l'onction et sa mission de fils, sa mission de salut autrement que par l'Esprit Saint. Voilà. La chrismation, hein, l'onction d'huile, est toujours dans la tradition de l'Église, en lien avec la parole de Dieu, le signe de la venue de l'Esprit Saint. Comme l'huile entre dans l'épaisseur de la chair, au-delà de la peau, dans ce qu'on appelle le derme, pour être un peu plus précis, eh bien, comme l'huile rentre à l'intérieur du corps, voyez, à travers l'application que l'on fait de l'huile, de la même manière, l'Esprit Saint vient pénétrer en profondeur l'être de la personne qui reçoit l'onction. Le Christ d'abord, et chacun de nous avec lui, par lui, en lui, bien sûr. Et donc, du coup, le mystère du Christ est lié vraiment à ce lien étroit à l'Esprit-Saint qui est manifesté et dès la conception, mais aussi à ces différents moments de la vie de Jésus. Donc, Jésus est Christ dès le début de son existence humaine, par le mystère de sa conception, même si cela ne paraîtra de fait que progressivement, à partir de son baptême, je viens d'en parler, et aussi en plénitude après sa résurrection. Les disciples comprendront eux-mêmes, grâce à une relecture qu'ils vont faire du passé de Jésus et de leur relation avec lui, et ceci à partir de la Pentecôte, quand ils vont eux-mêmes recevoir en plénitude le don de l'Esprit-Saint.
Et à ce moment-là, ils n'auront plus de crainte, parce que les apôtres, tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit-Saint en plénitude, mais ils sont dans la crainte. Vous vous souvenez que même après la résurrection de Jésus, ils se mettent au cénacle et puis ils ferment les portes à clé, ils mettent des barres. Hein. Alors que dès que ils ont reçu l'Esprit-Saint, ils partent et ils n'ont plus aucune peur. Toute peur part dès qu'on laisse l'Esprit-Saint agir complètement. Voilà.
Ensuite, Jésus est né de la Vierge Marie. Alors, c'est une évidence, mais creusons encore une fois, voyez, ce mystère. L'incarnation n'est donc possible que par une acceptation par Marie du projet de Dieu. Et il y a ce projet de Dieu. Dieu a un projet d'amour et Marie, elle entre dans une acceptation du projet de Dieu. Car ce que l'ange lui annonce, n'est pas autre chose que ce projet-là, puisque l'ange va lui expliquer le sens même du nom du fils qu'elle va enfanter et de cette mission que nous avons vue dans le précédent enseignement. Et donc, Marie, elle accepte cette mission. Pardon, elle accepte ce projet, voilà. Et donc une femme, Marie, c'est une femme qui va après Ève, voyez, participer à cette œuvre de salut.
C'est-à-dire que Ève a participé à une œuvre de mort en péchant, et la Vierge Marie, elle nous redonne, elle participe pour nous redonner la vie qui avait été perdue par Ève. Voilà.
Voilà. Ici, on fait ce parallèle. Entre deux femmes, l'une qui a participé à l'œuvre de mort et l'autre à l'œuvre de vie. Voilà. Et alors, pour que Marie soit la mère du Sauveur, l'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, il la salue comment? Comme pleine de grâce. Hein? Ce que nous disons d'ailleurs dans l'Ave, hein, dans le Je vous salue Marie. Pleine de grâce. C'est Luc. Chapitre 1, verset 28. Et en effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation de mère de Dieu, hein, il fallait que Marie soit toute portée par la grâce de Dieu. Hein. Il est impossible, et pour Marie, et pour chacun de nous, parce que ce que vit Marie, pour une part, est le signe de ce que nous sommes appelés à vivre, voyez, participer. Accepter cette participation à l'œuvre de Dieu, au projet de Dieu, pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Et donc, du coup, il faut pas moins que cette grâce, ce don gratuit de l'amour, dont la puissance rend Marie capable d'accepter cette folie de devenir la mère de Dieu, sans connaître d'homme. Et
Avec ce que ça représente comme souffrance, hein, c'est une acceptation de la souffrance aussi. Quand Marie dit oui, moi quand j'étais petite, je me suis dit, bah, la Vierge Marie, elle a eu plein de grâce, alors c'était facile pour elle. Taratata. C'est comme pour le Christ. Enfin, ce que je veux dire, c'est que rentrer dans cette volonté de Dieu, ça implique de renoncer à soi-même, et c'est le don total de soi-même. Marie, en acceptant cette mission d'être la mère du Christ, elle renonce complètement à sa vie. Et même si elle était consacrée, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, consacrée au Seigneur depuis son enfance, hein, puisque ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfant, ils avaient promis de consacrer à Dieu leur enfant, même si elle était consacrée à Dieu depuis l'enfance, hein, eh bien, elle a librement accepté de donner sa vie.
Et tout au long de l'histoire de l'Église, au long des siècles, l'Église a pris progressivement conscience que Marie était comblée de grâce par Dieu. Vous voyez, il ne suffit pas que Dieu le révèle à Marie et qu'un évangéliste nous le rapporte, Saint Luc en l'occurrence, on vient de le dire. Et cette réalité et la profondeur de ce que cela peut représenter et pour Marie et pour chacun d'entre nous, l'Église prend du temps, il lui faut du temps à l'Église, c'est-à-dire aux hommes, au sens très large. Et il y a une personne qui n'a pas coupé son micro là, s'il vous plaît, merci. Voilà, et donc il faut du temps à l'Église pour découvrir la profondeur de ce mystère et pouvoir en vivre. Le fait que Marie soit comblée de grâce, c'est que, eh bien, elle a été rachetée dès sa conception. Voyez, qu'est-ce qui est y a de particulier évidemment chez Marie, c'est que elle est immaculée conception, hein. Et c'est ce dogme, voyez, qui n'a été déclaré par l'Église comme étant un objet de foi certain, auxquels tous les chrétiens sont tenus d'adhérer s'ils veulent se définir vraiment comme chrétiens, hein, ce dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Rendez-vous compte, voyez, il faut 19 siècles à l'Église pour déclarer de manière certaine, après avoir étudier en profondeur toute la parole de Dieu, pas seulement ce passage, mais plein d'autres passages aussi qui permettent d'en découvrir la profondeur et d'affirmer ce dogme là, qui est proclamé par le pape Pie IX. Hein?
Cependant, ça a toujours été une chose certaine pour l'Église que effectivement Marie était conçue sans péché, même s'il n'avait pas encore le dogme a été proclamé très très tard, mais c'était une certitude.
Hein? Enfin, une certitude c'est une certitude pour beaucoup de théologiens. Mais il y a toujours eu des disputes théologiques, voilà. Et donc il a fallu qu'on prenne au sérieux toutes les objections à ce mystère, et que progressivement, objection après objection, l'Église puisse voir que les objections ne tenaient pas profondément la route, comme on dit, vous voyez, qu'elles n'étaient pas fondées, et que ce qui demeurait, c'était la réalité de ce mystère.
Il est certain que si Marie n'avait pas été conçue sans péché, elle n'aurait pas pu être la mère de Dieu. Parce que la mère, Dieu forcément est sans péché, et une femme qui est pétrie de péché, enfin qui est pécheresse, elle ne peut pas donner la vie à Dieu. C'est pas possible. Donc il fallait absolument que Marie soit préservée du péché pour pouvoir être la mère de Dieu. Théotokos.
Et si on reprend de manière un petit peu technique le contenu de ce dogme tel qu'il a été déclaré en trois phrases, on va pouvoir entrer dans la profondeur de ce mystère. Je vous le lis maintenant. La bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé, intact de toute souillure du péché originel. Fin de citation. Et voilà. Donc, on va continuer de creuser ce mystère, tellement il est grand. Donc, cette sainteté éclatante, voyez, absolument unique de Marie, vient tout entière du Christ. Hein. Il l'a. Et là, je vais citer la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. Il l'a élu en lui, Jésus, et il a élu la Vierge.
Voilà.
Avant la fondation du monde, pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. Et, donc on a ici aussi, vous voyez, ce texte de Paul que Paul a choisi de prononcer pour tous les hommes. Vous pourrez retourner voir le contexte de cette lettre de Paul. Hein, c'est le début de sa lettre qu'il écrit aux Éphésiens. Et donc cette affirmation qui touche tous les hommes, chacun de nous, voyez, Dieu veut que nous soyons aussi immaculés, mais nous ne sommes pas de la même manière que la Vierge Marie, puisque seule elle reçoit ce mystère par avance et dès sa conception. Voilà.
Par les mérites de son fils.
Voilà.
Mais nous y reviendrons. Mmh.
Et donc, Marie est aussi, nous rappelle le Concile Vatican II, hein, ce concile, de ce rassemblement de tous les évêques entre 1962 et 1965, les évêques du monde entier, qu'on réfléchit beaucoup au mystère de qui est la Vierge Marie et le lien de l'Église et de la Vierge Marie, et donc le lien de la Vierge Marie avec notre histoire personnelle à chacun. Hein, eh bien, elle dit que Marie est formée comme une nouvelle créature, hein, une nouvelle créature, par la grâce de Dieu, toujours, vous voyez. Voilà, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Elle est immaculée à sa conception, mais cette immaculée conception, ce n'est pas juste un moment donné de son histoire, c'est un don qui lui est fait et qui va durer tout au long de sa propre vie jusqu'à sa dormition, jusqu'à sa mort, voilà, et son entrée dans la gloire, ça, voilà, c'est son assomption. Et donc là, ici, ce qui est à retenir, sans doute, c'est la dimension de nouveauté. Vous voyez, Jésus est le nouvel Adam, et Marie sera, du coup, la nouvelle Ève, en tant qu'elle est celle qui permet ce mystère d'une nouveauté, une nouvelle création. Hein. Dieu va créer enfin, l'humanité. Et puis, ce projet de création semblait tourner à l'échec pour une bonne part, les hommes désobéissant et finissant eux-mêmes par souffrir de leur désobéissance et de leur rejet de Dieu, croyant pouvoir vivre heureux sans Dieu et finissant par idolâtrer mille et une autres divinités, complètement illusoires. Eh bien, Dieu vient agir dans l'histoire par son Fils, et renouveler la création. Et donc, c'est pour ça que Marie participe à ce mystère comme déjà étant une nouvelle créature, voyez, avant même que celui qui apporte la nouveauté, son Fils, soit né. Voyez, elle reçoit donc une grâce par avance, avant même que cette nouveauté qui est apportée par la passion et la résurrection de Jésus, Marie, Mère de Jésus et Mère de Dieu, comme nous reviendrons encore sur ce terme-là, reçoit cette grâce de nouveauté. Hein, la nouveauté de l'humanité, c'est la capacité infiniment plus grande, certaine et définitive d'être victorieux du mal et de la mort. Marie apporte au salut des hommes non pas simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu, voyez, comme si Marie recevait quelque chose et qu'elle n'agissait pas, voyez, mais elle offre aussi aux hommes, à travers sa propre histoire, la liberté de sa foi et de son obéissance. Marie, elle n'a pas seulement été choisie, elle a accepté d'être choisie, elle a exercé sa liberté donnée par Dieu pour dire oui. J'accueille, j'accepte ce projet fou, voilà, qui comporte, Marie-Christine l'a dit tout à l'heure déjà, une part de souffrance et de croix, de participation au mystère de la croix de son Fils. Voyez, et cette liberté exercée là, dans la foi, la liberté de la foi de Marie et de son obéissance, eh bien, sont ce sur quoi nous pouvons nous appuyer pour vivre notre propre vie chrétienne et entrer progressivement, même si c'est imparfaitement, sur le même chemin que Marie à l'école de son propre fils.
Oui, je pense que c'est très important ce mot de liberté, parce que souvent nous sommes esclaves d'abord de nous-mêmes, mais de certaines idées que nous pouvons avoir, ou des idées fausses que nous nous faisons sur Dieu, sur la Vierge, et sur beaucoup de choses, nous nous faisons des idées fausses et auxquelles nous croyons mordicus. Hein, alors que la Vierge, elle est toute à l'écoute de la volonté de Dieu, et elle y répond en donnant sa liberté et d'une manière libre. C'est ça qui me semble très important, la liberté de son obéissance. Parfois, on voit l'obéissance comme quelque chose auquel on est contraint. Je suis contraint d'obéir. Eh bien non, l'obéissance dans la foi, c'est une obéissance offerte, donnée, qui est libre, qui se donne librement. Et le Seigneur, notre amour de Dieu, J'ai envie de dire, ne vaut que s'il est libre, que si c'est un véritable amour. Il n'y a pas d'amour avec une mitraillette derrière la tête, si tu m'aimes pas, je te tue. Non, c'est pas possible, ça. Hein? Donc, vraiment, c'est cette liberté de se donner, hein? D'être complètement ouvert à la volonté de Dieu.
Et cette obéissance de la foi de Marie, elle est possible parce que Marie, donc, fait confiance elle-même à ce qu'elle entend de la parole de Dieu. Hein. Quand l'ange va lui dire, après lui avoir annoncé cette folie de devenir la mère de Jésus, la mère de Dieu, l'ange, pour l'aider à croire, voyez, va lui révéler que sa cousine Élisabeth est elle-même enceinte, alors qu'elle était trop vieille, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, et qu'elle était en plus dans sa jeunesse stérile. Et donc, voilà, quand il lui annonce ce miracle, cette chose impossible à l'échelle humaine, il précise en effet, car rien n'est impossible à Dieu. Et donc, la foi de Marie s'appuie sur l'adhésion et la mémoire de cette parole de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Pour nous, c'est impossible. Nous ne pouvons pas vivre et accueillir la folie de l'amour de Dieu pour nous et la guérison de notre péché, et nous ne pouvons pas sortir nous-mêmes de là, mais Dieu, lui, peut faire l'impossible.
Et oui, parce qu'il est tout puissant.
Voilà.
C'est pour revenir à ce que nous disions ce matin. Ah. Oula, je ne peux pas. Dieu est tout puissant, donc il peut tout faire. C'est important.
Et l'obéissance de Marie, elle se manifeste à travers la phrase qu'elle dit, hein, toujours à l'Annonciation, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et le mot « servante » est aussi un mot qui en grec peut être traduit par le mot esclave. L'un et l'autre trouvent la même origine, telle que Saint Luc l'a choisi, ce mot-là, lorsqu'il a écrit son évangile. Et donc Marie, elle dit, je suis l'esclave du Seigneur. Et en effet, la différence entre le servant et l'esclave, ou la servante et l'esclave, le serviteur ou la servante, une fois qu'il a terminé son travail, il retrouve sa liberté, alors que l'esclave, lui, il est au service sans arrêt. Il n'y a pas de limite dans l'esclavage au service. On est corps et âme confiés au service d'une personne. Hein. Et on n'est pas là pour qualifier le fait que ce soit bon ou mauvais. Ici, l'esclavage, on sait bien que c'est une réalité dans l'histoire des hommes qui était mauvaise, mais là, ici, il faut comprendre à partir de ce qu'est cet état de fait dont on ne peut pas se réjouir en lui-même, eh bien, que Marie choisit elle-même d'être servante toute sa vie, à chaque instant de sa vie et par tout ce qu'elle va vivre.
Donc esclave, parce qu'elle appartient complètement à Dieu.
Voilà.
Et il y a un texte, il faudrait que je le retrouve, je suis presque sûre que c'est de Saint Paul, qui dit « Devenez les esclaves du Christ ». Hein, je retrouverai et puis je vous dirai à l'occasion, hein, mais voilà, c'est ce que nous devons être. C'est-à-dire, pas se dire, le Seigneur, voilà, il a ce petit temps de messe, ce petit temps de prière, ce petit temps de chapelet, machin, puis le reste, c'est pour moi. Non, c'est toute notre vie qui doit être pour le Seigneur, au service du Seigneur et de sa volonté.
Et donc, Marie, de terminer sa réponse en disant, « Qu'il m'advienne selon ta parole. » Voilà. Et donc là, ça, c'est vraiment pour nous essentiel de faire mémoire de cette réponse de Marie que nous pouvons faire nôtre chacun, qu'il m'advienne selon ta parole, pour moi comme pour Marie. Je veux vivre selon ta parole. Je veux que ta parole soit le guide de toute ma vie. Je veux ajuster chacun de mes actes à partir de ton cœur, dont je découvre la vérité des actions bonnes à accomplir dans ta parole. C'est la parole et rien que la parole qui nous fait découvrir et choisir de faire la volonté de Dieu chaque jour davantage. Et alors, vous voyez, donc, en donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devient donc la mère de Jésus. Et elle épouse, ah, c'est une image, mais elle épouse à plein cœur, vous voyez, sans que le péché la retienne, la volonté de Dieu. Et elle se livre elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son fils qu'elle va enfanter. Vous voyez?
Pour servir.
Voilà. Et elle le fait pour servir, dans cet esprit de service et rien d'autre. Voyez? Et il nous faut toujours nous souvenir que nous ne pouvons pas envisager le fait d'être chrétien autrement que dans l'esprit de service. Jésus n'est maître et seigneur, comme nous l'avons découvert dans le précédent enseignement, dans l'unique chemin qui fait de lui un serviteur. Hein? Il est serviteur et maître, mais comment il vit cette maîtrise, cette seigneurie dans le service? Hein? Vous voyez? Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc Marie prend ce même sillon que son propre fils, et elle va servir toute l'humanité en servant le dessein du Père et en servant son propre fils.
C'est en cela que Marie est reine. On parle, il y a une fête de Marie reine, hein, et la reine comme le roi. Hein, tout à l'heure, je vous disais, prêtre, prophète et roi, le roi, c'est celui qui sert. Eh bien, Marie, elle est reine parce qu'elle est sert. Elle sert. Voilà. Et nous sommes appelés à servir de cette même manière.
Et alors saint Irénée va redire cette chose aussi avec des mots très beaux que je cite maintenant. Par son obéissance, Marie est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause du salut. Ouais. Elle devient cause du salut. Le salut, c'est Dieu, mais elle devient cause du salut. Pour le dire autrement, nous n'aurions jamais pu être sauvés sans l'acceptation volontaire, libre de la Vierge Marie à ce mystère fou. Voilà. Et ensuite, oui, avec saint Irénée, il y a d'autres pères qui disaient la chose suivante, et je les cite. Le nœud, hein, le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, son manque de foi, son manque d'obéissance, et la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Fin de citation. Et ça, c'est merveilleux parce que on voit bien que on compare, on l'avait déjà fait avant, mais là, on le fait d'une manière nouvelle. Voyez, comparer Marie avec Ève et appeler, ça nous permet d'appeler Marie la mère des vivants,
Et la
bien
nouvelle Ève.
et la nouvelle Ève, voyez, une mère des vivants bien plus que Ève. On appelait déjà Ève la mère des vivants, mais elle était la mère des vivants selon la chair, alors que Marie va devenir la mère des vivants selon l'esprit. Voyez, dans la profondeur de notre humanité, vous voyez. Et ce qui est très très beau aussi, c'est, vous voyez, ce choix du terme du nœud pour nommer le péché des origines et tous nos péchés. Marie qui défait les nœuds, hein, et beaucoup d'entre nous savent et peuvent parfois faire une neuvaine ou une prière à Marie qui défait les nœuds, nous ne pouvons pas le comprendre autrement que comme défaire le nœud de mes péchés. Et donc, du coup, cette action-là, on sait qu'elle ne peut pas se faire de manière magique, mais qu'elle implique une action et un engagement volontaire, déterminé de notre part, à fuir le péché, à nommer le péché, à le reconnaître dans ma vie, pour que Dieu m'en libère. Alors, la
Il y a une
dernière.
petite phrase de Lumen Gentium que j'aime bien parce que c'est par Ève la mort, par Marie la vie.
Absolument.
Tu l'as dit.
Non, on ne l'avait pas dit, bien sûr, c'est bien fait.
C'est parce que je suis un peu pas
Voilà,
très bien.
c'est tout ce mystère-là qu'on vient de dire, qui est résumé comme ça, vous voyez, juste par quatre mots, voilà, ou enfin cinq, six mots, voilà. Par Ève, la mort, par Marie, la vie. Voilà. Pour le dire autrement, vous voyez, la vie dont Ève était porteuse comme mère des vivants, au sens charnel, corporel du terme, eh bien, était comme une erreur ou un mensonge, vous voyez, ou une fausse vie, parce que elle a été complice de ce qui tue en nous le mystère le plus profond de la vie, qui est l'âme et le cœur. Voilà.
C'est-à-dire que, étant séduite par le malin, à partir du moment où Adam et Ève ont obéi au malin, ils ont rompu, hein, ce que le Seigneur attendait de l'humanité, et il a fallu la Vierge Marie et Jésus pour renouer ce que, enfin oui, c'est pas très bien de dire renouer, parce que pour rétablir, disons, pour rétablir, c'est-à-dire justement en défaisant ce nœud du péché, ce nœud du péché, pour rétablir la possibilité d'avoir accès à Dieu en pouvant faire sa volonté.
Pour terminer, nous allons voir aussi la virginité de Marie. Hein, l'Immaculée Conception, c'est une chose. Hein, c'est quand Marie est conçue dans le sein de sa mère, Sainte Anne, hein, par son union avec Saint Joachim, ou Joachim. Voilà,
Joachim, on est en France, on dit Joachim.
Selon les traditions, peu importe, mais voilà.
En France, on dit Joachim.
Et là, maintenant, on va toucher à la virginité de Marie. La virginité de Marie, elle est liée à la naissance de Jésus. Hein. Il y avait la conception de Marie, l'Immaculée Conception. Maintenant, la virginité de Marie, elle est ce mystère qui est lié spécifiquement à la conception, bien sûr, et à la naissance de Jésus. Et alors, dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé, reconnu, pour le dire autrement, vous voyez, que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit, et rien d'autre, voyez, dans le sein de la Vierge Marie. Affirmant aussi cet aspect corporel, l'aspect corporel de cet événement. Jésus a donc été conçu, comme on le dit dans le Concile du Latran, je le cite, « de l'Esprit Saint sans semence virile ». Et fin de citation. Et vous comprenez bien le sens de ces mots. Mais il nous faut avoir cette crudité dans la manière de parler de ce mystère pour bien comprendre la grandeur, la profondeur de ce mystère et la puissance que Dieu a, voilà, de pouvoir faire naître la vie lui-même sans la semence virile, ici de Joseph, bien sûr, son époux. Et les pères de l'Église ont vu dans la conception virginale le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Vous voyez, voilà, c'est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Et puis dans la descendance d'Ève, vous voyez, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son Fils. Hein, le lien d'Ève avec Marie, il y a ce lien de descendance, vous voyez, au sens de la descendance d'une même famille. Hein. Donc la descendance d'Ève, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son Fils. Et en Marie, l'Église admire et elle exalte le fruit le plus grand, le plus éminent de la rédemption. Et comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. Hein? Ce que l'Église espère est être tout entière, c'est-à-dire ce qu'est la Vierge Marie, qui est vierge, voyez, la virginité de Marie, qui n'est à comprendre que dans le lien au service, encore une fois. Hein? Marie est vraiment mère de Dieu, puisqu'elle est la mère du Fils éternel de Dieu, qui est fait homme. Et la virginité de Marie, eh bien, l'Église affirme qu'elle est restée vierge en concevant son Fils, en l'enfantant, elle est vierge en le portant, vierge en le nourrissant de son sein, vierge toujours.
Ouais. Mais je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'une virginité physique, mais il s'agit surtout d'une virginité spirituelle. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont pécheurs, des pécheurs publics, hein, on le sait, qui vont passer d'une personne à l'autre très rapidement et qui pourtant ont un cœur pur. Et vous avez des personnes qui apparemment sont très chastes et qui en fait dans leur cœur ne le sont pas du tout. Hein? Et donc, c'est important de s'examiner aussi, parce que parfois, on peut se dire, ben oui, ben moi, je suis une personne chaste, hein? Et c'est important de demander à l'Esprit Saint de venir éclairer notre cœur, parce que parfois, des personnes qui sont apparemment chastes, elles le sont corporellement, mais le sont-elles dans leur esprit et dans leur cœur? Est-ce qu'elles ont un cœur accueillant? Est-ce qu'elles ont un cœur ouvert à l'amour de Dieu, à l'amour des autres? Vous voyez, je pense que c'est important de se poser cette question-là, parce que pour Marie, c'est clair que sa virginité, elle était autant de physique que spirituelle, hein, mais par une sorte de, vous savez, on peut être un peu pervers parfois, et parfois c'est une forme de pervers.
C'est terminé.
Alors on recommence?
Mais il faut que ça nous se recontacte, on va pas renvoyer le truc, hein. On l'a dit tout à l'heure. On est arrivé à
Oui,
40
mais on
minutes.
peut pas y aller. On peut pas le relancer. Ah, il suffit que eux se relancent. À nous, on
Oui.
n'a rien à faire.
Non. Tout à l'heure, c'était Céline qui l'avait fait avant que j'ai commencé à envoyer des trucs. Il réactive le truc
Tu vois, le
et ça
numéro pour la
suffit.
réunion, c'était ça qu'il voulait Jean-Michel.
Ah, peut-être.
Ah oui, c'est sûr.
Ah oui.
Tu vois.
Ah, oui. Mais les autres, ils n'ont pas eu besoin de le rentrer. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a une différence entre le. C'est parce que je pense que. Ah oui, il a dû le faire avec son ordinateur. Plutôt qu'avec sa. Alors, si on fait commencer une réunion. Voilà, et puis voilà, peut-être qu'on recommence et après ils vont se reconnecter, je pense, sans doute. Voilà, c'est ça.
Voilà.
Je crois que c'est bon, hein, non? Attente de.
Non, non, c'est bon,
Ah
tu as
non,
mis
voilà,
à
là, c'est
le
bon. Là, il y
tout.
en avait encore, mais il y en a encore, je me suis en cours. Voilà. Voilà. Voilà, désolé de la coupure, on est arrivé au bout des 40 minutes. Alors, on a presque terminé, hein. Encore 5 minutes. Donc, on était en train de dire.
Oui, j'étais en train de me dire qu'il était important que nous examinions, que nous demandions à l'Esprit Saint de nous aider à examiner notre cœur pour voir si, étant chaste, si étant, c'est quoi le terme? Excusez-moi, quand
Oui,
on est malade,
chaste,
c'est
vierge.
vierge. Si en étant vierge de corps, nous le sommes aussi dans l'esprit, hein, et que l'Esprit Saint nous montre en quoi peut-être il y a des points où nous ne le sommes pas. Pour qu'ils nous rendent vraiment, vraiment chastes à tout point de vue, hein, d'être véritablement dans cette virginité dans laquelle le Seigneur peut vivre. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont des vies terribles et qui, en même temps, ont un cœur tel que, voilà, nous ne pouvons pas juger les hommes. Il y en a qui paraissent très saints mais qui ne le sont pas. Il y en a d'autres qui paraissent des vrais pécheurs et qui sont quelque part très saints. Voilà. Nous n'avons pas à juger, ça c'est quelque chose que nous devons apprendre. Dieu seul sait.
Et alors, quand Marie-Christine dit que des pécheurs publics peuvent être des personnes très pures, non pas, c'est pas pour dire des choses contraires à la foi et que le péché conduirait à la pureté, mais c'est bien le mystère que des pécheurs pardonnés. Voilà, des pécheurs publics qui ont vécu des très très grands péchés, lorsqu'ils font ce chemin de conversion et donc du coup de reconnaissance de leurs propres péchés et d'une demande de pardon à Dieu, ils ont parfois mystérieusement une capacité à suivre le Seigneur qui peut être supérieure à des personnes qui ont une vie parfois très lisse. Il ne s'agit pas de comparer forcément, mais c'est
Alors on peut
simplement
donner un ou
pour.
deux exemples comme Charles de Foucault
Oui, voilà, bien sûr.
ou d'autres, je ne sais pas, ça ne me vient pas là, mais voilà, il y en a qui ont eu des vues assez mouvementées et qui du
Ben
coup,
Saint-Augustin
Saint
aussi.
Augustin aussi, oui, enfin il y en a plein.
Voilà. Et tout ça pour dire qu'en effet, la virginité corporelle ne peut pas être comprise autrement que avec le lien intérieur, voyez, de l'âme, de ce cœur qui veut être pur, c'est-à-dire qui veut vivre en communion avec Dieu, et qui, même si il pêche souvent, souvent reprend le chemin de Dieu et de la communion avec Dieu par une demande de pardon, car Dieu ne se lasse jamais de pardonner à ses enfants. Voyez, et c'est ça qui est à retenir et à comprendre et à vivre comme mystère. Voyez, la virginité, elle est bien le signe de la volonté d'imiter notre Seigneur et sa mère en étant chacun toujours plus des serviteurs. Je veux servir Dieu, je veux servir les personnes que Dieu met sur mon chemin, quelles qu'elles soient, et surtout celles pour lesquelles je n'ai aucune sympathie, voire même du dégoût. Le Seigneur ne les met pas sur ma route autrement que pour ma conversion et un appel profond à aimer au-delà du manque d'amour spontané que je peux avoir pour ces personnes. Voilà, donc on s'arrête là. On a dit l'essentiel. Non, mais c'était la même chose qui était dit. Voilà. Et donc du coup, on s'arrête là pour l'enseignement. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cet enseignement, ce troisième et dernier enseignement?